الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ففي هذا اليوم 29 من شهر ربيع الأول لعام 1442 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نختم سلسلة هذه الدروس في شرح رسالة قيمة التوضيح والبيان لشجرة الإيمان للإمام ابن السعدي رحمه الله. Le 15 novembre 2020, et nous voici réunis pour le dernier ou la dernière séance de l'étude de l'écrit intitulé « La clarification et l'éclaircissement de l'arbre de la foi » par l'éminent savant Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di, qu'Allah lui fasse miséricorde. Nous nous sommes arrêtés après avoir vu que parmi les mérites de la foi qui en découle, le fait que cette dernière est le refuge du croyant dans toute situation. C'est cette foi qui va faire que le croyant va savoir comment se conduire et quels seront les meilleurs comportements à avoir lors de toute situation confondue, tant bien dans la joie que dans la tristesse, dans la force ou la faiblesse, la sécurité ou la peur, et toute autre situation auquel est amené le croyant, ou que le croyant, pardon, est amené à rencontrer dans sa vie. Après cela, l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit, wa minha أن الإيمان الصحيح يمنع العبد من الوقوع في الموبقات كما ثبت في الصحيحين أو في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن الحديث رواه البخاري ومسلم حديث أبي هريرة. L'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit que parmi les mérites de la foi authentique empêche le croyant de tomber dans les péchés surnommés par le prophète même, sallallahu alayhi wa sallam, al-mubiqat. Al-mubiqat, ce sont les destructeurs, c'est-à-dire les péchés gravissimes. Ils font donc partie des péchés majeurs. La foi est un rempart, est une forteresse, une protection donnée par Allah subhanahu wa ta'ala aux serviteurs afin de se prémunir de ces péchés qui seront pour sa personne destructeurs et qui auront des dégâts gravissimes. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit dans le récit rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim, quand le fornicateur commet la fornication, sa foi n'est pas complète. Lorsque le voleur vole, sa foi n'est pas complète. Lorsque celui qui consomme l'alcool le fait, sa foi n'est pas complète. Si l'on prenait les termes cités dans le hadith, on verrait que le prophète alayhi salat wa salam littéralement dit « La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min » c'est-à-dire le fornicateur ne commet pas la fornication tout en étant croyant. Le voleur ne commet pas le vol tout en étant croyant ou alors tout en ayant la foi. Le consommateur de boissons enivrantes ne le fait pas tout en ayant la foi, tout en ayant croyant. C'est-à-dire que ce péché est gravissime et ces péchés sont gravissimes, ils relèvent des péchés majeurs. Et que lorsque la personne les commet, elle ne peut pas avoir une foi correcte, une foi qui est celle voulue d'Allah. Sa foi sera forcément défaillante. Cela ne veut pas dire qu'elle a mécru en Allah, subhanahu wa ta'ala. Car dans le hadith, quelqu'un pourrait comprendre tout en ayant la foi, c'est-à-dire il n'a pas la foi à partir du moment où il commet cet acte. Ce n'est pas le cas. Ce qui est voulu, c'est que le fornicateur, le consommateur de boissons enivrantes, le voleur qui commette ces péchés majeurs ne peuvent pas le faire avec une foi complète, une foi comme celle qu'Allah veut de subhanahu wa ta'ala. Ainsi, l'on comprend que la foi complète, forcément, est un rempart et protège le serviteur de ce genre de péché. L'imam al-Si'di, rahimahullah ta'ala, nous dit ensuite, فَأَخْبَرَ أَنَّ الْإِيمَانَ إِذَا صَحِبَهُ عِنْدَ وُجُودِ أَسْبَابِ هَذِهِ الْفَوَاحِشِ فَإِنَّ نُورَ إِيمَانِهِ يَمْنَعُهُ مِنَ الْوُقُوعِ فِيهَا فَإِنَّ النُّورَ الَّذِي يَصْحَبُ الْإِيمَانَ الصَّادِقَ وَوُجُودَ حَلَاوَةِ الْإِيمَانِ والحياء من الله الذي هو من أعظم شعب الإيمان بلا شك يمنع من مواقعة هذه الفواحش ومن وقعت منه فإنه لضعف إيمانه وذهاب نوره وزوال الحياء ممن يراه حيث نهاه وهذا معروف مشاهد والإيمان الصادق الصحيح يصحبه الحياء من الله والحب له والرجاء القوي لثوابه والخوف من عقابه والنور الذي ينافي الظلمة وهذه الأمور التي هي من مكملات الإيمان لا ريب أنها تأمر صاحبها بكل خير وتزجره عن كل قبيح. Il va, Allah lui fasse miséricorde, nous détailler ce qui est voulu de ce récit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit tout d'abord que le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a informé que la foi qui accompagne la personne, la foi présente dans le cœur de la personne, va la protéger par la permission d'Allah, subhanahu wa ta'ala, lorsque les causes des péchés se réuniront en la personne. Les péchés ont des causes. Il y a des choses qui poussent la personne à pencher vers le fait de commettre l'acte interdit, notamment ceux cités dans le récit ici. La fornication, la consommation de boissons enivrantes ou de produits enivrants, ainsi que le vol. Il y a des causes qui amènent à cela. La foi, nous dit l'auteur, le prophète alayhi salatu wassalam nous informe que quand elle accompagne la personne, de par sa lumière, la lumière de la foi, elle empêche la personne de tomber dans ses péchés, c'est-à-dire malgré la présence des causes y appelant. Même si le fait de faire l'acte est facilité, il y a quelque chose qui va empêcher la personne de passer à l'acte, c'est sa foi en Allah, subhanahu wa ta'ala. Car la foi, la lumière, pardon, qui accompagne la foi véridique, ainsi que le fait de ressentir la saveur de la foi et d'éprouver de la pudeur envers Allah, avoir honte d'Allah et de son regard, subhanahu wa ta'ala. Et sans doute, ces choses-là font partie des branches les plus solides de la foi. Toutes ces choses-là empêchent la personne de tomber dans les turpitudes. Quant à celui parmi les gens qui est tombé dans celle-ci, il ne l'a fait qu'en raison de la faiblesse de sa foi ou de la dissipation ou l'absence de la lumière de la foi dans son cœur et de la pudeur envers celui qui l'observe et le voit où il a été interdit de se rendre. Et ça, c'est connu, nous dit l'auteur, rahimahullah. La foi véridique et authentique est accompagnée de la pudeur envers Allah, de l'amour pour lui, et d'un fort espoir en sa récompense, ainsi que d'une grande peur de sa menace et de son châtiment, subhanahu wa ta'ala. C'est cette lumière qui élimine l'obscurité des péchés. Ces choses-là font partie de ce qui complète la foi et appelle celui qui possède cette foi à obéir à Allah, subhanahu wa ta'ala. En d'autres termes, et pour résumer, plus la foi est forte, plus la personne se voit protégée de tomber dans les péchés destructeurs. Et quand on dit qu'ils sont destructeurs, cela veut dire que c'est la personne même qui commet ces péchés, pendant lesquels elle pense jouir d'un quelconque ou d'un certain plaisir, elle est en réalité en train de se détruire. Qu'Allah nous en préserve. subhanahu wa ta'ala. Le suivi des passions fait beaucoup de mal à la personne. L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans sa lettre intitulée Risalatu Ibn al-Qayyim ila Ahadi Ikhwani, la lettre de Ibn al-Qayyim adressée à l'un de ses frères, qui est en réalité un conseil qu'il a écrit et donné à l'un de ses co-religionnaires dénommé Alauddin, va dans cet écrit justement où il porte conseil, dire que quand le serviteur est face à un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala ou un interdit d'Allah azza wa jal, il est dans une situation où il doit choisir entre deux tentations ou alors deux délices, lequel des deux devra-t-il choisir? Et il est face à deux choses qui lui sont nuisibles, laquelle des deux choisira-t-il de supporter? Je m'explique avec un exemple qui va illustrer clairement cela. Quand le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque dans ce récit, le prophète alayhi salatu wa salam parle par exemple de la fornication, du vol ou de la consommation des boissons enivrantes. Quand le serviteur est devant cet acte qu'est la fornication, auquel son ennemi juré, ash-shaytan ar-rajim, l'appelle et toutes les causes sont réunies pour que ce serviteur tombe dans ce péché gravissime avec la plus grande facilité. Personne ne le voit, il est dans un endroit discret et il est même peut-être ou elle, qu'il s'agisse d'un homme ou une femme, il ou elle est appelé sans faire d'effort, tout est facilité, comme dans l'histoire du prophète Youssouf, alayhi salam, n'est-ce pas, qui a justement été invité par une femme non seulement séduisante, mais en plus une femme de pouvoir, puisqu'elle est la femme du roi, dans un endroit discret, à l'abri de tous les regards. Et là, qu'est-ce que le serviteur doit faire à ce moment-là? L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, nous dit, il est face à deux choix. Il a deux délices, ou deux désirs, si on peut les appeler ainsi. Il doit choisir lequel des deux il va prendre. Et il est devant deux choses qui lui seront nuisibles, il doit choisir laquelle des deux il devra endurer. S'agissant des désirs auxquels il pourrait être appelé, le premier, c'est l'acte immédiat qu'est la fornication, qu'Allah nous en préserve. Mais il doit faire un choix. Soit il assouvit ce désir-là, alors que c'est malsain, interdit et mauvais, ou alors il décide de prendre un autre désir, qu'est la récompense que lui promet Allah subhanahu wa ta'ala au paradis. Et que si, pour Allah subhanahu wa ta'ala, il s'abstient de commettre ce péché, eh bien, il aura bien meilleur que cela dans une demeure qui ne connaîtra ni interruption, ni fin. Alors, il va faire le choix. S'il est doué de raison et fort dans sa foi, il va dire, je vais m'abstenir d'assouvir ce désir mondain afin de gagner celui de l'au-delà. De même, il doit faire le choix entre deux choses nuisibles, laquelle il devra endurer afin de gagner l'autre, d'être épargné de celle qui est encore plus nuisible. Ces deux choses-là, dans cet exemple-là, qu'est l'acte ici, soit il patiente et ne commet pas cet interdit, et peut-être que son âme l'y appelle. C'est quelque peu nuisible pour la personne, dans le sens où il y a tout pour faire, mais il doit s'abstenir, n'est-ce pas? Mais il se dit que oui, peut-être qu'il apparaît que c'est nuisible pour mon âme, mais en réalité, je le fais parce que je veux me protéger de quelque chose qui sera bien plus nuisible encore, qu'est le châtiment d'Allah que je risque si je commets cet acte. Et ça, c'est ce que doit se dire le croyant dans tous les péchés, dans tous les ordres d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qui fait que le croyant agit ainsi? C'est sa foi. Donc, parmi les mérites de la foi, justement, le fait que le croyant soit préservé des péchés destructeurs, de la désobéissance à Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est donc un rempart, une protection. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, dit, وَمِنْهَا أَنَّهُ ثَبَتَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهِ أَنَّهُ قَالْ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْأُتْرُجَّةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَرِيحُهَا طَيِّبٌ وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلَا رِيحَ لَهَا. Il va nous citer donc un récit du prophète alayhi salatu wa salam et nous dit: parmi les mérites de la foi, ce qui est rapporté par Al-Bukhari Muslim d'après le compagnon Abu Musa Al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu, où il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: l'image du croyant qui lit le Coran est celle de l'orange. Son odeur est suave et sa saveur est suave. L'image du croyant qui ne lit pas le Coran est celle de la date. Elle n'a pas d'odeur et elle est douce. Elle n'a pas d'odeur et elle est douce. Ce qui va suivre est une comparaison faite par le prophète alayhi salatu wassalam entre les croyants dans leurs différents niveaux de foi. Donc, dans ce hadith, qui n'a pas été cité par l'auteur dans son entièreté, on voit que le prophète, alayhi salatu wassalam, nous dit, d'abord je vais lire la parole de l'imam Sirdi rahimahullah. L'imam nous dit, وَهَؤُلَاءِ الْقِسْمَانِ هُمْ خَيْرُ الْخَلِيقَةِ فَإِنَّ النَّاسَ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ خَيْرٌ فِي نَفْسِهِ مُتَعَدٍّ خَيْرُهُ إِلَى غَيْرِهِ وهو خير الأقسام فهذا المؤمن الذي قرأ القرآن وتعلم علوم الدين فهو نافع لنفسه متعد نفعه إلى غيره مبارك أينما كان كما قال الله تعالى عن عيسى وجعلني مباركا أينما كنت طيب في نفسه صاحب خير وهو المؤمن الذي ليس عنده من العلم ما يعود به على غيره فهذان القسمان هما خير الخليقة الخير الذي فيهم عائد إلى ما معهم من الإيمان القاصر والمتعدي نفعه إلى الغير بحسب أحوال المؤمنين. Ces deux groupes sont les meilleurs de la création, car les gens sont de quatre types. Quand il dit que ces deux groupes sont les meilleurs de la création, il parle de ce dont a parlé le prophète alayhi salatu wassalam quand il a comparé l'image du croyant al-mu'min qui a la foi et qui lit le Coran à celle de l'orange. Al-utrudja en arabe, qui a été traduit ici par l'orange, n'est pas en réalité l'orange. C'est un fruit parmi les agrumes, certes, qui est très proche de l'orange, mais ce n'est pas l'orange, wallahu ta'ala a'lam. J'ai oublié son nom en langue française. Quoi qu'il en soit, c'est un fruit dont l'odeur est une bonne odeur, et sa saveur aussi. Il y a donc ici la notion du bien en soi et envers autrui. Parce que ce fruit qui est bon, il est bon pour qui? Si ce n'est pour celui qui va le manger. Donc ici, on parle d'un bien qui va se reproduire sur autrui. Et il a une bonne odeur. Et la bonne odeur, c'est pour le fruit en lui-même. On parle donc du croyant qui a un bien en lui parce qu'il a la foi, et en même temps, il fait du bien à autrui, parce qu'il a lu le Coran et a appris la science, et l'a propagé à autrui. Il y a ensuite l'image du croyant qui ne lit pas le Coran, qui n'étudie pas le savoir. Il est comparable à une date. Vous savez qu'une date est un fruit dont la douceur et dont le goût est excellent, sans pour autant avoir d'odeur. Il s'agit ici du croyant qui a un degré inférieur au premier. Mais je vais lire maintenant ce que dit l'imam Sirdi, rahimahullah. Ces deux groupes sont les meilleurs de la création, Car les gens sont de quatre catégories. La première, celui qui est bon envers lui-même et envers les autres. C'est le meilleur des quatre. Et c'est le croyant qui lit le Coran, apprend les sciences religieuses et ainsi profite à sa personne, mais il profite également à d'autres. Et il est béni où qu'il soit. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos du prophète Isa alayhi salam. Isa a dit alors qu'il était nouveau-né, وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتْ. Il m'a rendu béni où que je sois. Ainsi était le prophète Isa alayhi salam. D'ailleurs, l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, dans sa lettre dont je vous ai parlé tantôt, qu'il a adressée à l'un de ses frères en tant que conseil, a expliqué ce verset et l'a commenté en disant qu'un homme béni où qu'il soit, ou une personne bénie où qu'elle soit, est quelqu'un qui, où qu'il se trouve, transmet le bien, interdit le mal, empêche que le mal ne soit commis et invite les gens à toute bonne chose. Il appelle les gens à Allah, subhanahu wa ta'ala. Dans ses assises, le nom d'Allah n'est pas oublié. La prière sur le prophète, alayhi salatu wa salam, n'est pas négligée. C'est ainsi que la personne bénie est. Et ça, c'est le premier des quatre types de personnes. Le second, nous dit l'auteur, celui qui est bon de nature et de bonne compagnie. C'est le croyant qui n'a aucune science, dont il peut faire profiter les autres. C'est-à-dire qu'il a la foi, il est bien en lui-même, mais il n'a pas assez de connaissances pour appeler à Allah et donc propager le bien qu'il a en lui-même. L'auteur dit, ces deux groupes sont les meilleurs de la création, et le bien qu'ils portent naît de leur foi qui est bénéfique à leur personne, voire à d'autres en fonction du cas. Ces deux catégories de personnes, la personne qui est bonne envers elle-même et envers les autres, et celle qui est de bonne nature mais qui n'a pas assez de bagage pour faire propager ce bien envers autrui, ce sont les meilleures des personnes. Et qu'est-ce qui fait que ce sont les meilleures des personnes? C'est leur foi. Et ce que veut nous dire l'auteur, c'est que parmi les mérites de la foi, est que la personne à la foi fait partie des meilleures des personnes. Ensuite, dans le cercle, dans la sphère des meilleures des personnes, il y a différents degrés, certains sont mieux que d'autres. L'auteur rahimallah nous dit ensuite la troisième catégorie, man huwa 'adimun lil khair walakin lahu la yata'adda dararuhu ila ghayrihi. Rabi'an, man huwa sahibu sharrin 'ala nafsihi wa 'ala ghayrihi. فهذا شر الأقسام الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون فعاد الخير كله إلى الإيمان وتوابعه وعاد الشر إلى فقد الإيمان والاتصاف بضده والله الموفق. Donc l'auteur rahimahullah nous dit, troisièmement, celui qui ne porte aucun bien, mais il ne fait subir aucun tort aux autres. Et quatrièmement, celui qui est mauvais pour lui-même et pour les autres. Et c'est le pire de tous. Donc pour résumer, il y a quatre catégories de personnes. Le degré le plus élevé, c'est la personne qui est bonne envers elle-même, mais aussi envers les autres. Elle tire profit aux autres. Le deuxième degré, c'est celui qui est bon de nature et de bonne compagnie, mais il n'a pas assez de science pour faire profiter les autres. Le troisième, c'est celui qui est mauvais, mais dont le mal n'atteint pas les autres. Et le quatrième degré, qui est le pire, c'est la personne qui est mauvaise en elle-même et mauvaise envers les autres. Au sujet de cette quatrième catégorie, qui sont ceux qui ont mécru et qui n'ont pas du tout la foi, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le sens rapproché du verset, ceux qui ont mécru et empêcher les gens de suivre le sentier d'Allah, nous leur ajouterons châtiment sur châtiment pour le désordre qu'ils semaient. Qu'Allah nous en préserve. Ainsi l'auteur, rahimahullah, nous dit, dans la traduction, tout le bien vient donc de la foi et de ce qu'elle implique, alors que le mal naît de l'absence de la foi et de l'acceptation de son contraire. Son contraire, c'est al-kufr, la mécréance. Et c'est Allah qui accorde le succès. Ensuite, il dit « وَشَبِيهٌ بِهَذَا الْمَعْنَى قَوْلُهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْمُؤْمِنُ الْقَوِيِّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِي كُلٍ خَيْرٌ فَقَسَّمَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى قِسْمَيْنِ قِسْمٌ قَوِيٌّ فِي عَمَلِهِ وَقُوَّةِ إِيمَانِهِ وَفِي نَفْعِهِ لِغَيْرِهِ قِسْمٌ ضَعِيفٌ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ وَمَعَ ذَلِكَ فَفِي كُلٍّ مِنَ الْقِسْمَيْنِ خَيْرٌ لِأَنَّ الْإِيمَانَ وَآثَارَهُ كُلُّهُ خَيْرٌ وَإِنْ تَفَاوَتَ الْمُؤْمِنُونَ فِي هَذَا الْخَيْرِ النُّجِي. Tout le bien vient donc de la foi et de ce qu'elle implique, alors que le mal naît de l'absence de la foi et de l'acceptation de son contraire. Puis à la fin, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné un exemple de cela. Pardon la phrase d'avant. Et c'est Allah qui accorde le succès. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné un exemple de cela lorsqu'il dit, le croyant fort est meilleur que le croyant faible et il y a du bien en chacun des deux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc divisé les croyants en deux groupes. C'est-à-dire que dans le récit que vous venez d'entendre, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le croyant qui a la foi la plus forte est meilleur et plus aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala que le croyant qui a la foi mais qui est faible dans celle-ci, bien que les deux aient du bien en eux. Donc on voit que les deux, qu'il s'agisse du croyant fort ou du croyant faible dans sa foi, sont des gens qui en eux ont du bien. Seulement, plus la foi est forte, plus la personne est aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors le prophète alayhi salat wa salam a divisé les croyants en deux groupes. Un groupe fort dans sa science, dans sa foi, et les profits qu'il apporte aux autres. Ça, c'est le croyant qui est fort. Il est fort dans sa foi, fort dans sa connaissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala, fort dans sa connaissance de la religion d'Allah, azza wa jal, et donc, de surcroît, fort par ce qu'il apporte aux autres, puisqu'il a de quoi leur donner. Et le deuxième degré, c'est un groupe faible en ces choses. C'est un groupe de croyants qui a la foi, mais qui est faible. Le prophète, alayhi salat wa salam, dit, mais malgré tout, pardon, l'auteur dit, mais malgré tout, il y a du bien dans chaque groupe, car la foi et ses signes ne sont que bien, même si les croyants occupent des degrés divers en cela. Il dit ensuite, وَمَثَلُ هَذَا قَوْلُهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ خَيْرٌ مِنَ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يُخَالِطُ النَّاسَ وَلَا يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ. Le prophète alayhi salat wa salam a donné un autre exemple lorsqu'il dit, le croyant qui se mêle aux gens et endure leurs nuisances est meilleur que le croyant qui ne se mêle pas aux gens et n'endure pas leurs nuisances. C'est-à-dire que les deux sont bien, mais le premier est meilleur. Et les deux ont la foi, et c'est pour ça qu'ils sont bien. Si ce n'est que le premier cité est meilleur. Pourquoi est-il meilleur? Parce qu'il se mêle aux gens, et il endure leurs nuisances. Il se mêle aux gens, il ne les fréquente pas dans le sens où il est ami de tout le monde. Si bien qu'il est l'ami de quelqu'un qui commet des péchés autres, non, il se mêle aux gens dans le sens où il apporte au bien du gens. Il apporte aux gens, pardon, du bien. Il les appelle à Allah, subhanahu wa ta'ala. Il fait tout pour corriger et rectifier leur cheminement malsain vers Allah, subhanahu wa ta'ala, pour les appeler au repentir de leurs péchés. Et eux, peut-être qu'ils lui rendent en retour des nuisances. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il endure, il patiente. Sans doute, et nul doute que celui-là est meilleur que celui qui se dit, pour me protéger, je ne vais fréquenter personne, afin d'épargner ma personne du mal des gens. Lui, il veut se protéger lui-même. Et le premier, il veut corriger les autres. Donc il est meilleur, sans le moindre doute. L'auteur, rahimahullah, nous dit, ومفهوم هذه النصوص الصحيحة المحكمة أن فاقد الإيمان لا خير فيه لأنه إذا عدم الإيمان فإما أن يكون الشخص أحواله كلها شر وضرر على نفسه وعلى المجتمع من جميع الوجوه، وإما أن يكون فيه بعض الخير الذي قد انغمر بالشر وغلب شره خيره. والمصالح إذا انغمرت واضمحلت في المفاسد صارت شرا، لأن الخير الذي معه يقابله شر نظيره فيتساقطان، ويبقى الشر الذي لا مقابل له من الخير يعمل عمله. ومن تأمل الواقع في الخلق رأى الأمر كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. Pour conclure, l'auteur a dit: on peut tirer de ces textes authentiques et clairs qu'il n'y a aucun bien en celui qui n'a pas la foi. Donc celui qui n'a pas l'iman ne fait pas partie des gens qui ont le khayr. Car si la foi est absente, soit cette personne sera entièrement mauvaise et nuisible pour elle et la société, soit elle peut posséder quelques biens, mais celui-ci est noyé dans le mal. Elle fait donc plus de mal que de bien. Et lorsque les biens sont noyés et disparaissent, ils deviennent un mal. Car le bien qu'il possède fait face à un mal. Donc il s'annule, et reste alors le mal qui ne fait face à aucun bien. Et celui qui médite sur la création verra la chose de la manière dont l'a décrite le prophète alayhi salatu wassalam. Imaginez-vous un verre ou un récipient. Dans celui-ci, vous mettez de l'eau. Et ensuite, vous venez ajouter à cette eau un produit des plus polluants, de couleur noire, très sale, très toxique. Puis vous versez cela dans ce verre. Qu'est-ce qu'il advient de l'eau ? Et qu'est-ce qu'il advient du liquide contenu dans ce verre ? Allez-vous toujours l'appeler de l'eau ? Non, il va changer, ça deviendra quelque chose d'autre. Eh bien ici, il s'agit d'une personne qui fait du bien, mais qui n'a pas la base du bien qu'elle imane. À la base, la personne a al-kufr, la mécréance, ou al-shirk, le polythéisme. Le bien qu'elle fera va être noyé dans le mal qu'elle a fait lorsqu'elle a fait al-kufr ou al-shirk. Tout comme ce verre qui contenait à la base de l'eau a été souillé par un liquide toxique et polluant qui est venu se mêler à lui. Donc la foi, elle doit être purifiée et forte. Puis l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit que celui qui médite sur la création verra la chose de la manière dont l'a décrite le prophète, alayhi salatu wassalam. En conclusion de cet écrit très bénéfique, qu'Allah nous a facilité de lire, l'auteur a dit « Al-Khatima, fatabayyana mimma taqaddam, anna hadhihi shajarata al-mubaraka, shajarata al-imani, abrakul ashjari wa anfa'uha wa adwamuha. » وأن عروقها وأصولها وقواعدها الإيمان وعلومه ومعارفه وساقها وأفنانها وشرائع الإسلام والأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة المؤيدة المقرونة بالإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ثمارها وجناها الدائم المستمر السمت الحسن والهدي الصالح والخلق الحسن واللهج بذكر الله وشكره والثناء عليه والنفع لعباد الله بحسب القدرة نفع العلم والنصح ونفع الجاه والبدن ونفع المال وجميع طرق النفع. On peut tirer de ce qui a précédé, c'est-à-dire de tout le livre, que cet arbre béni, qu'est l'arbre de la foi, est le plus béni des arbres, le plus profitable et le plus durable. Voici le meilleur arbre, Shajaratul Iman, l'arbre de la foi en Allah, qui a été planté par Allah dans le cœur du croyant, comme l'a dit l'imam Sirdi dans l'introduction de cet écrit. Et vous savez que cet écrit a été en réalité basé sur le verset où Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Alam tara kayfa daraba Allahu mathalan » كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها jusqu'à la fin du verset. Dans le sens du verset, Allah Azza wa Jal dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam et bien sûr aux croyants de méditer sur cet arbre. De méditer sur cet arbre. N'as-tu pas vu comment Allah propose en exemple une bonne parole? Pareil à un bel arbre dont les racines sont fermes et les branches s'élancent dans le ciel. Il donne à tout instant ses fruits par la grâce de son Seigneur. Allah propose ces exemples aux gens afin qu'ils se souviennent. Et cette image ou cette parabole proposée par Allah est celle de la foi dans le cœur du croyant qui ressemble à un arbre. La foi dans le cœur du croyant ressemble à un arbre et cet arbre a été défini par le prophète ou alors il a été précisé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant un nakhla, c'est-à-dire le palmier. Et on a vu que le palmier est le meilleur de tous les arbres et nous avons vu les causes pour lesquelles il est ainsi, en raison du bien qu'il apporte et qu'il donne à autrui. De même, le croyant, la foi qu'il a dans son cœur est semblable à un bel arbre. Et c'est l'arbre le plus béni, l'arbre de la foi. L'auteur a dit, ses racines, fondements et règles sont la foi, ses sciences et ses connaissances. Son eau et sa nourriture sont les règles de l'islam, les œuvres pieuses, les nobles comportements accompagnés de sincérité envers Allah, subhanahu wa ta'ala, et le suivi du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ses fruits et ses récoltes permanentes et continues sont la bonne apparence, la guidée, le bon comportement, l'abondance du rappel d'Allah, de la reconnaissance et des éloges qui lui sont adressés. L'utilité pour les serviteurs d'Allah en fonction des capacités de chacun. Être utile à autrui par la connaissance, par le conseil, par le rang et le corps, les biens matériels et toute forme d'utilité. C'est-à-dire que tout comme l'arbre qu'est le palmier a des racines, des fondements et doit être planté dans un endroit, l'arbre de la foi est planté dans le cœur. Le palmier est planté dans une terre pure. L'arbre de la foi, lui, est planté dans le cœur du croyant. Le palmier a des racines, n'est-ce pas? Il a des fondements. La foi a des racines et des fondements qui sont au nombre de 6. On les appelle les piliers de la foi. La foi en Allah, en ses livres, en ses anges, en ses prophètes, au jour dernier, au destin. Ce sont les fondements de la foi présents dans le cœur du croyant. Il faut donc les apprendre, il faut les comprendre, il faut les cultiver afin que cet arbre produise ses fruits par la permission d'Allah. Son eau et sa nourriture, car chaque arbre a besoin d'être abreuvé et nourri, n'est-ce pas? Sinon il va tarir et il va périr. Il en est de même pour la foi du croyant dans le cœur. Il a une eau et une nourriture. Cette eau et cette nourriture, c'est al-wahi. C'est la révélation d'Allah, c'est le Qur'an et la sunnah. Ses fruits et ses récoltes permanentes, car le palmier donne des fruits que sont les dattes, et il y a des récoltes permanentes et continues. Eh bien, de la même manière, la foi doit produire des fruits et des récoltes qui doivent être permanentes et continues. L'auteur a dit, وحقيقة ذلك كله القيام بحقوق الله وحقوق خلقه وأن هذه الشجرة في قلوب المؤمنين متفاوتة تفاوتا عظيما بحسب ما قام بهم واتصفوا به من هذه الصفات وأن منازلهم في الآخرة تابعة لهذا كله. La concrétisation de tout cela s'opère par le respect des droits d'Allah et des droits des serviteurs. Pour concrétiser la réalité de la foi, il y a deux droits à respecter. Le droit d'Allah, le lien entre le serviteur et Allah, subhanahu wa ta'ala, son adoration, de ne pas associer à Allah une quelconque divinité, et le droit des serviteurs, les interactions envers autrui, le comportement et tout ce que cela implique. L'auteur dit, وأن الفضل في ذلك كله لله وحده والمنه كلها له سبحانه بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين. Et tout cela vient uniquement de la grâce et de la faveur d'Allah. Azza wa Jal. Allah a dit dans le sens du verset, c'est Allah qui vous a comblé d'une faveur en vous dirigeant vers la foi si vous êtes véridique. Le fait d'avoir la foi est le plus grand don d'Allah. Le fait d'avoir la foi est le plus grand bienfait d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Sans le moindre doute. L'auteur a dit, رحمه الله تعالى, وقال أهل الجنة بعدما دخلوها وتبوأوا منازلها معترفين بفضل ربهم العظيم وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فجمع في هذه الآية بين الإخبار باعترافهم وثنائهم على الله بنعمه وفضله حيث وصلوا إلى هذه المنازل العالية وبين ذكر السبب الذي أوصلهم إلى ذلك بمنة الله عليهم وهو العمل الصالح الذي هو الإيمان وأعماله. فنسأل الله تعالى أن يمن علينا بالإيمان الصادق وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. En conclusion, l'auteur رحمه الله تعالى a dit « Ainsi les gens du paradis diront après y être entrés et s'y être installés en reconnaissant la grâce de leur Seigneur » dans le sens rapproché du verset. Ils diront « Toutes les louanges reviennent de droit à Allah pour nous avoir guidés à ceci. Nous n'aurions pas été guidés si Allah ne nous avait pas guidés. Les messagers de notre Seigneur sont venus avec la vérité et on leur annoncera voilà le paradis qui vous a été donné en héritage pour ce que vous faisiez. » Ce verset nous informe à la fois de leur reconnaissance des bienfaits de la grâce d'Allah, ce verset nous informe à la fois de leur reconnaissance des bienfaits et de la grâce d'Allah et des éloges qu'ils lui adressent pour cela lorsqu'ils atteindront ces degrés élevés, mais également du moyen qui les y a fait parvenir par la grâce d'Allah, et qui sont les œuvres pieuses que sont la foi et ce qu'elle implique comme acte du cœur et des membres. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous accorde une foi véridique et qu'il ne nous confie pas à nous-mêmes, serait-ce le temps d'un clin d'œil, qu'il n'égare pas nos cœurs après nous avoir guidés, et qu'il nous fasse don de sa miséricorde, car il est le donateur suprême. Que les éloges et le salut d'Allah soient sur le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Donc ces gens-là reconnaissent le bienfait d'Allah, et pour cela, ils ont accès au paradis, et ils voient un double bienfait d'Allah sur eux. Le bienfait d'Allah, c'est de les avoir guidés, et de leur avoir facilité l'accès à la foi. Et le deuxième bienfait, c'est de leur avoir facilité de faire les causes y menant. Parce qu'Allah Azza wa Jal ici nous dit qu'ils entrent au paradis, ils héritent de ce paradis pour ce qu'ils faisaient. C'est-à-dire que par la cause de leurs actions, ils auront accès au paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces actions-là sont le fruit des bienfaits d'Allah sur eux encore. Et l'auteur رحمه الله a dit قال ذلك وكتبه العبد الفقير إلى الله عبد الرحمن ابن ناصر ابن عبد الله ابن السعدي غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين حرر في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة سنة 1374 هجريا والحمد لله رب العالمين وتم نقله في الرابع عشر من جمادى الثانية سنة 1376 بقلم عبد الله السليمان السلمان فلله الحمد من قبل ومن بعد. Écrit par l'indigent devant Allah, عبد الرحمن, fils de Nasir, Al-Si'di, qu'Allah lui pardonne, ainsi qu'à ses parents et à l'ensemble des musulmans, achevé le 8 du mois de Dhul-Hijjah 1374, louange à Allah, Seigneur de l'univers. Et ainsi, par la grâce d'Allah, subhanahu wa ta'ala, s'achève l'étude de cet écrit ô combien bénéfique, At-Tawdihu wal-Bayan li Shajarati al-Iman, la clarification et l'éclaircissement de l'arbre de la foi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse miséricorde à l'imam Si'adi et lui pardonne ses fautes et lui donne accès au paradis. Et qu'il fasse de nous des croyants au cœur rempli de foi en Allah et aux œuvres pieuses. Il en est certes capable. Une personne avait demandé, quand on dit des péchés qu'ils sont destructeurs pour la personne, est-ce que cela peut faire tomber, est-ce que cela comporte peut-être? Est-ce une porte, Naam, pour tomber dans l'innovation ou le shirk? La réponse est que les péchés ont plusieurs degrés de gravité. Le pire, c'est ash-shirku billah. Et nul doute que le shirk, sous toutes ses formes, fait partie des péchés destructeurs et il est au summum. Il est au degré le plus élevé, d'ailleurs, des péchés destructeurs. Ensuite, il y a al-bid'ah. Il y a l'innovation. Aucun doute que l'innovation est un péché destructeur. Et ensuite, il y a les péchés majeurs, comme la fornication, la consommation de boissons enivrantes et autres. Voici le degré de gravité. Le shirk, le polythéisme, ensuite la bid'a, l'innovation, et ensuite les péchés majeurs. Toutes ces choses-là sont des péchés destructeurs, mais il y a des degrés dans leur gravité. Ensuite, nul doute que les uns peuvent conduire aux autres. Pour cela, les savants ont dit, par exemple, al-bid'a baridul kufr. L'innovation conduit à la mécréance. Combien parmi les innovateurs ont commencé par les bid'a et sont arrivés au shirk, sont arrivés au polythéisme? De même pour les péchés peuvent conduire à plus grave, car les savants disent as-sayyi'atu tunadi ukhtaha. Le péché appelle son frère, c'est-à-dire que le mal appelle à un autre mal. Donc, les péchés ont des degrés de gravité, le pire est le shirk, en dessous il y a la bid'a et enfin il y a le péché majeur. Chacun peut être une porte pour amener à l'autre, qu'Allah nous en préserve. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.